France Musique.
La Pologne, une histoire en partage. En 1795, la Pologne disparaît. Conséquence de la voracité de ses voisins, mais aussi d'un siècle d'affaiblissement politique et économique. Dès 1772, la Russie de Catherine II envahit la Pologne et procède au premier partage du pays avec ses alliés autrichiens et prussiens. La Pologne passe alors de 733 000 m² à 522 000. Cette humiliation a pourtant une conséquence positive, la formation d'un mouvement intellectuel important qui, inspiré des événements français, propose en 1792 une constitution révolutionnaire imitée de la constitution française de 1791. Mais cette innovation a surtout pour effet de provoquer une nouvelle intervention de la Russie et de la Prusse. En 1793 a lieu un deuxième partage de la Pologne. Elle est cette fois réduite à un peu plus de 200 000 km² et à environ 3 millions d'habitants, sur 11 400 000 à l'origine. L'échec d'une insurrection désespérée sous le commandement de Tadeusz Kościuszko se solde par la défaite des Polonais et d'un troisième et dernier partage en 1795. Le nom de la Pologne est définitivement rayé des cartes européennes pour 123 ans. Si la politique fait disparaître la Pologne des cartes, elle reste présente dans le cœur des Polonais. C'est sur le futur empereur des Français, Napoléon Ier, et sur le tsar de Russie, Alexandre Ier, que reposent leurs espoirs. Mais Alexandre Ier ne tient pas ses promesses et les armées de Napoléon sont décimées en Russie. L'empereur gardera toutefois son aura sur le peuple polonais, qui aujourd'hui encore l'honore dans son hymne national et conserve le modèle des lycées et des écoles polytechniques. En 1815, malgré l'intervention de Kościuszko, le congrès de Vienne ratifie le partage entre les trois conquérants, la Russie, la Prusse et l'Autriche. La Pologne est dès lors réattribuée à la Russie. Elle en fait un état fantoche aux ordres de Saint-Pétersbourg. Les Russes et les Prussiens vont mener une politique d'assimilation forcée. Les Polonais doivent alors se convertir au rite orthodoxe et n'ont plus le droit de parler leur langue dans les écoles ou les administrations. L'Autriche, qui annexe la petite Pologne, avec Cracovie, Lublin et Radom, est la moins assimilatrice des puissances occupantes. Elle permet ainsi à la culture polonaise du XIXe siècle de s'épanouir en Galicie, plus exactement dans la ville libre de Cracovie. Mais le peuple polonais subit d'inacceptables humiliations et mène un combat sans répit contre le colonisateur tout au long du XIXe siècle. La Pologne ne cesse de lancer son cri, dans les strophes de Mickiewicz, les mélodies du pianiste Frédéric Chopin. C'est avant tout l'effort et l'exemple de ces artistes qui maintient l'espérance dans les cœurs, jusqu'à ce que renaisse la Pologne. Tous tentent de maintenir les relations artistiques entre les deux pays. L'école de sculpture française a conservé en Pologne tout son prestige. Ainsi la commande d'une statue en bronze de Copernic faite en 1803 à Clodion par un certain Joseph Jablonowski. Nombreux sont les artistes à avoir exalté les gloires de la Pologne et particulièrement de l'émigration polonaise. Le romantique Arthur Grotger, qu'on appelle le Chopin de la peinture, est le plus émouvant interprète des souffrances de la nation polonaise. Il crée à Paris sa Vallée des larmes et meurt à 30 ans à Amélie-les-Bains. Depuis le triomphe de la peinture française impressionniste, qui relègue définitivement à l'arrière-plan les prétentions de l'école allemande, c'est vers Paris que regardent tous les artistes polonais. De leur côté, les étudiants, les militaires et la bourgeoisie de Varsovie ne se satisfont pas du sort de la Pologne et rêvent d'un retour à l'indépendance d'antan. Le jeune compositeur Frédéric Chopin et ses camarades d'université suivent avidement les cours d'histoire universelle de Félix Benkowski et ceux de littérature polonaise de Kazimierz Brozinski. L'auteur préconise en outre que la littérature et l'art polonais, y compris la musique, élaborent des traits nationaux distincts au lieu d'adopter des modèles étrangers. La jeunesse polonaise est nourrie de cette volonté d'affirmation et de revendication de leur patriotisme. Attablés autour de tasses de café et de verres de punch, les jeunes gens discutent passionnément de politique, de la situation désastreuse du royaume et envisagent des actions contre la domination de plus en plus pesante de la Russie. Chopin est impressionné par les exposés de Brozinski. Il rêve depuis 1826 de créer un style à part pour la musique polonaise, qui saurait aussi bien s'enraciner dans les traditions nationales que s'ouvrir à la nouveauté. En mai 1829, l'accession au trône de Nicolas Ier, plus autoritaire que son prédécesseur Alexandre Ier, ravive l'opposition. En juillet, la fin de l'année universitaire signifie pour Chopin la fin des études, la fin de sa jeunesse artistique et le début de sa vie d'adulte. Le temps est venu où il faut aller découvrir le monde, et le monde découvrir Frédéric Chopin. L'insurrection éclate à Varsovie dans la nuit du 29 novembre 1830. Chopin publie sa première série de mazurkas. Son vœu devient enfin réalité. En passe d'être victorieux, les généraux perdent peu à peu du terrain devant la menace des Russes. Ils appellent les gouvernements occidentaux à se mobiliser. Peine perdue. L'insurrection est matée au prix d'une répression sanglante. Le 8 septembre 1831, Nicolas Ier reprend Varsovie avec ses 11 000 hommes de troupes. La France, qui vient de vivre sa propre révolution en renversant Charles X pour couronner Louis-Philippe, refuse d'intervenir sous prétexte que l'ordre règne à Varsovie. C'est le moment de la grande émigration. 10 000 Polonais impliqués de loin ou de près dans l'insurrection décident de rejoindre la France. Frédéric Chopin est absent de Varsovie lors de l'insurrection. Après maintes hésitations, il quitte enfin Varsovie le 2 novembre pour entreprendre son grand voyage à l'étranger. Il est à Stuttgart lorsqu'il apprend la capitulation de Varsovie. Le journal de Chopin se transforme alors en un cri de désespoir et de fureur, rempli de mots violents, rapides, cinglants, tels des coups de feu. Et il pose la question « Oh Dieu, existes-tu ? Oui, tu existes et tu ne nous venges pas. N'y a-t-il pas encore assez de crimes moscovites, ou bien es-tu moscovite toi-même ? » Chopin désespère d'être seul, loin des siens dont il ignore le sort. Il épanche alors son désespoir sur le piano. « À quoi cela sert-il » confie-t-il. « Dieu, mon Dieu ébranle la terre, qu'elle dévore les hommes de ce siècle, que les tortures les plus cruelles tourmentent les Français qui ne nous ont pas secourus. » Malgré des paroles aussi vives, Chopin, alors âgé de 22 ans, désire se rendre à Paris au plus vite. En France, on accueille au moins les Polonais avec sympathie, on approuve sans réserve leur mouvement pour la liberté. Frédéric Chopin arrive à Paris à l'automne 1831. Le pays est instable et agité car il n'est pas encore remis de la révolution de juillet 1830. Mais des mesures sont en place pour accueillir la grande émigration polonaise qui fuit la censure et l'oppression de la culture nationale sous le joug de la Russie. Ce sont d'abord tous ceux qui ont participé aux campagnes napoléoniennes qui reviennent en France. La deuxième vague d'immigration est plus politique et cultivée. De nombreux artistes et intellectuels émigrent à Paris, surtout des écrivains et des poètes romantiques, mais aussi les compagnons varsoviens de Chopin. Les Polonais en exil prennent alors le relais du sabre et des militaires. Ils veulent prouver que leur nation n'est pas morte. Ils sont tribuns, écrivains, penseurs et tous, hommes politiques, universitaires ou musiciens, s'engagent et militent pour que la Pologne soit reconnue comme une entité indépendante. Sur l'île de la Cité, l'hôtel Lambert du prince Adam Czartoryski est alors le lieu où l'action culturelle s'organise en faveur des Polonais. Le 26 février 1832, Frédéric Chopin est présenté au public parisien. Il joue son concerto en mi mineur. Désormais, il est un exilé à Paris, sans retour possible en Pologne. Chopin soutient ses compatriotes réfugiés en France. Pour manifester sa résistance à l'oppression polonaise, il donne le 5 avril 1835 un récital dans la salle du Théâtre des Italiens. Le peuple français soutient la cause polonaise. La nation romantique de Victor Hugo devient polonaise. Les valeurs de cette nation deviennent les valeurs du mouvement romantique qui lui reconnaît le droit de se venger de son malheur. Alfred de Musset résiste quant à lui à l'appel des sirènes polonaises. Peu à peu, les grands mouvements de solidarité s'éteignent. Alors seul le vieux proverbe polonais demeure « Dieu est trop haut et la France est trop loin ».
À réécouter sur francemusique.fr.